Deuxième émission autour de la ville d'Arles sur la Grenouille ce week-end, une ville qui fait l'objet d'un Ravi Crash à Arles, un dossier spécial dans le dernier numéro du Ravi, le fameux mensuel régional satirique, un dossier auquel s'est associée la Grenouille pour 3 émissions sur son antenne. Hier, à la même heure, vous avez peut-être entendu un plateau radio en direct du Cargo à Arles qui réunissait des journalistes du Ravi et de la Grenouille et des acteurs de la vie locale pour un débat sur la ville. Ce soir et demain soir, cap sur la culture, vu à travers la petite lorgnette de l'économie. Une approche qui prend appui sur l'inauguration le 5 octobre dernier à Arles de la Grande Halle, un équipement de 5 000 m² au sol muni d'un toit dont la moitié est un écran de 2 800 m² et qui prend place sur le site hautement symbolique des anciens ateliers SNCF, en plein cœur de la ville, 10 hectares abandonnés depuis 1985. Une grande halle dont le destin est annoncé par ceux qui l'ont fait naître sous les auspices de la culture et du commerce. Une grande halle qui s'inscrit dans une des villes les plus pauvres de France, mais une ville qui, à travers des entreprises culturelles prestigieuses telles qu'Harmonia Mundi, Actes Sud et les rencontres internationales de la photographie, ainsi qu'un patrimoine antique classé en 2006 patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, semble bien décidée à faire de la culture un des axes majeurs de son développement. Comment les différents acteurs culturels et économiques de la ville d'Arles envisagent la place et le rôle de la culture dans la vie économique locale. C'est le fil rouge que nous vous proposons à travers l'émission à suivre dans l'heure qui vient sur la Grenouille avec des personnalités qui œuvrent dans le quotidien culturel et économique d'Arles et à travers une seconde émission, demain, même heure, ce sera autour des événements et manifestations ponctuelles. Pour commencer cette première émission, quelques questions donc autour de la culture et de l'économie à Françoise Nissen, directrice des éditions Actes Sud, une maison d'édition installée depuis 1984 en Arles et qui, outre ses activités autour du livre, programme à l'année des concerts, des expositions, des spectacles et des rencontres avec les associations des Amis du Méjean. Françoise Nissen commence par rappeler l'histoire de l'installation d'Actes Sud à Arles.
Et on est venu s'installer à Arles, parce qu'à Arles, il y avait quelqu'un d'absolument incroyable qui s'appelle Jean-Paul Capitani, qui avait un lieu familial au bord du Rhône qui était en train de transformer en lieu culturel, c'est-à-dire en salle de cinéma, restaurant, lieu d'expo, et il voulait faire une librairie. Et on s'est branché là-dessus, parce que moi, ça avait toujours été mon rêve de faire une librairie. Donc on a fait une librairie avec à la fois de la musique, puis on s'est mis à faire des concerts dans l'église à côté, etc. Donc voilà, ça c'est l'histoire, parce que c'est important de... Je me rappelle que c'est des rencontres comme ça absolument incroyables entre des gens qu'il faut à un moment donné un développement de ce type-là, quoi. Hein, voilà.
D'accord. C'est pas le maire de l'époque, Jean-Pierre Camoin, qui est venu vous demander de vous installer à Arles, comme ça s'est passé pour Harmonia Mundi, par exemple.
Alors là aussi, rappelons les faits. Pas du tout. Jean-Pierre Camoin était quelqu'un de très ouvert et a vraiment facilité beaucoup les choses. Mais Actes Sud, bon, il n'a jamais aidé Actes Sud dans le sens où c'est une entreprise qui n'a jamais été subventionnée. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait indépendant. Après, dans le cadre de l'association, ils ont joué le jeu, comme la région, comme le département, etc., pour qu'il existe des activités de qualité, de la qualité que nous proposons, à des tarifs possibles pour le public arlésien. Mmh. Mais à l'époque, non, c'est Jean-Paul Capitani qui avait ce projet fou de faire de ce lieu, non pas un immeuble de rapport encore plus, etc., mais de faire un vrai lieu culturel. Et c'est lui qui est venu nous chercher. Harmonia Mundi est venu parce qu'un soir, on avait une rencontre avec Duby que nous avions organisée, il était là, et Bernard Couftaz dit « Oh là là, il faut que je rentre dans ma montagne et tout », et on lui dit « Mais enfin Bernard, pourquoi tu viens pas t'installer à Arles ?» Et je me tourne vers Jean-Pierre Camoin et je lui dis « Mais Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais pour qu'Harmonia Mundi vienne s'installer ?» Il dit « On en parle dès demain ». Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est à une rencontre qui s'est faite chez nous, avec une envie de la part de Bernard et un soutien de notre part, qu'il y a eu cette ouverture de la mairie.
Donc depuis votre installation en 1984, comment vous avez vu évoluer ce paysage culturel en Arles ?
Écoutez, c'est difficile quand on est en plein dedans de voir quelle est l'évolution. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une synergie d'animation, de choses qui se passent à Arles, qui finalement sont assez extraordinaires, parce que regardez la situation. Il y a d'abord les rencontres Ben, il ne faut pas oublier qu'il y a d'abord la photographie. Hein. Il y a d'abord la photographie, puis il y a l'archéologie, il y a le musée de l'art antique. Et puis là-dessus, bon, ben, nous, on arrive, puis vient Harmonia Mundi. Nous, on développe vraiment une activité associative culturelle depuis 1983. Et à côté de ça, il y a Fenangier à Nova qui vient s'installer. Il y a les journées de la harpe qui se mettent en place. Il y a le théâtre de la Calade qui occupe le grenier à sel. Il y a le nouveau théâtre qui s'ouvre avec une programmation vraiment de... qui accompagne la création et de recherche. Enfin, il y a une multitude de choses qui se mettent en place comme ça. Et je vois bien, maintenant, il y a plein de petites initiatives. Donc, c'est un vrai foyer d'animation, d'idées. Et il se passe plein de choses à Arles, maintenant.
Même en dehors de l'été.
Attendez. Nous, notre propos, comme la plupart des événements, à part les rencontres photos, mais qui essayent de faire des choses aussi en dehors de l'été, toutes les activités dont je vous parle... Nous avons pour obsession de faire des choses pour le public de la région, d'ici. Donc on le fait en général de octobre à juin. C'est pour ça que je suis toujours tellement étonnée quand j'entends des gens qui disent « Oh, il se passe rien à Arles ». Il y a des soirs où on ne sait pas où aller tellement il y a de propositions.
Mais on a l'impression que quand on parle de la culture comme un moteur économique, ça correspond plutôt à cette période de l'été où il y a beaucoup de touristes, beaucoup de festivals, tout ça, plutôt que à la période hors...
C'est ne pas voir la réalité, je dirais, parce que la réalité est des concerts, des lectures. Encore l'autre jour, on a eu Denis Podalydès, on a fait salle comble, je veux dire, on a fait salle comble. Alors, on a eu le premier concert l'autre soir, on a rempli la salle. Il y a en permanence des activités, les journées de l'art vont venir, ça va drainer un nombre de gens incroyables, des rencontres de la traduction aussi. C'est contre-vérité. Et ça, c'est uniquement pour le mouvement associatif. Pour ce qui est de l'économie, et là, c'est là où ça devient vraiment très intéressant, allez pointer quelles sont les plus grosses entreprises pourvoyeuses d'emploi et en chiffre d'affaires de la ville d'Arles. Et vous verrez, vous constaterez, un, Harmonia Mundi, deux, Actes Sud. Donc, l'économie de la ville repose aussi sur la culture, ce qui est le merveilleux paradoxe quand les gens imaginent que la culture vit au basque de l'économie. Il se fait qu'à Arles, c'est presque un contre-exemple et c'est l'inverse qui se passe. Et ça, je trouve ça formidable, quoi. C'est réjouissant parce que ça montre enfin qu'il n'y a pas un divorce entre l'un et l'autre et qu'il n'y a pas une espèce de vision que les gens ont, que la culture ça coûte cher aux citoyens. C'est l'inverse, c'est pas vrai. C'est archi faux. Le principal de la taxe professionnelle à Arles est fourni par deux entreprises qui sont des entreprises de culture, Harmonia Mundi et Actes Sud. L'emploi, oui. Nous on est à 160 personnes, Harmonia Mundi je ne sais pas, mais c'est plus de 200. Donc on arrête d'avoir cette espèce de... L'idée que la culture coûte cher et bouffe des ronds, au contraire, elle en apporte. En plus de ça, objectivement, qu'est-ce qui se passe dans une ville où il y a des propositions culturelles de qualité? Eh bien, ça éclaire la ville. Parce qu'il n'y a pas que le passé est fondamental, mais il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui se projette dans le contemporain, dans l'avenir. À partir du moment où il y a des concerts de qualité, où il y a des lectures, où il y a des événements de tout ordre, où il y a un cinéma, où il y a des bonnes librairies, il y en a plusieurs, je veux dire, à partir de ce moment-là, les gens ont envie de venir, les entreprises peuvent trouver un atout à s'installer dans cette ville qui, en plus de ça, est extraordinaire, merveilleusement située, qui est le centre, un centre méditerranéen. Enfin, regardez, on est à même pas une heure de Marseille, même pas une heure de Montpellier, 2 heures de Lyon, 3 heures de Barcelone. C'est génial, non ?
C'était Françoise Nissen, directrice des éditions Actes Sud, Martial Roche et l'adjoint au commerce et à l'économie de la ville d'Arles. Il répond à quelques questions. Monsieur Martial Roche, quelles sont les principales activités qui génèrent des finances pour la ville d'Arles aujourd'hui ?
Ah, parce que... Eh bien, évidemment, beaucoup le patrimoine qui est quand même très riche sur Arles, bien sûr. Alors, tous nos monuments rapportent un petit peu d'argent, notamment les arènes, bien sûr, le théâtre antique, les musées, les Aliscans. Tous les monuments rapportent un petit peu d'argent. Ensuite, bien évidemment, l'occupation du domaine public. Ça comprend eh bien, les marchés du mardi, du mercredi et du samedi. Ce sont des marchés fixes. Les premiers mercredis du mois, un marché spécial, la brocante. puis toutes les opérations, les cirques, toutes les opérations qui sont sur le domaine public, les terrasses, les enseignes, ça c'est nos principaux revenus de la commune, je pense. Mmh.
Mais en termes de taxes professionnelles, par exemple, quelles sont les entreprises qui payent le plus de taxes professionnelles à la ville d'Arles?
Ah ben, toutes les entreprises payent leurs taxes professionnelles au prorata de leur importance. Hein.
Ouais. Et là, les plus importantes, elles sont dans quel secteur d'activité?
Bon, c'est très diversifié sur Arles. Hein. Mmh. Un petit peu d'agroalimentaire, de l'industrie lourde, beaucoup de taxes professionnelles des petites entreprises, beaucoup de petites entreprises. Mmh. Nous avons quand même beaucoup d'entreprises en zone nord et puis beaucoup d'entreprises dans la périphérie d'Arles et dans la commune d'Arles. C'est très dispatché. Hein.
Est-ce que les entreprises culturelles sont nombreuses à Arles, au pays d'Arles?
Non, les entreprises culturelles sont nombreuses, mais ce sont des petites entreprises. Hein.
Mais sinon, il y a quand même Actes Sud, Harmonia Mundi, tout ça.
Ah, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Ça, c'est les entreprises particulières, quand même. Ça appartient à des particuliers, c'est pas à la ville d'Arles, ça.
Ah oui, bien sûr, mais ils payent quand même des choses qui vont à la ville d'Arles.
Ah ben oui, toutes les entreprises, ouais. On peut considérer ça que ce sont des commerces. Hein. Ouais. Des commerces qui ont attrait à la culture, mais ce sont des commerces.
Donc... Alors, ben justement, vous êtes délégué au commerce et à l'économie. Est-ce que la culture, dans cette délégation, a un poids important?
Oui, bien sûr, mais la culture, on peut regarder le théâtre, on peut regarder le théâtre municipal.
Ça, c'est plus des dépenses que des recettes.
Eh oui, bien sûr, mais la culture, c'est surtout une valorisation de la ville d'Arles. Hein. Ouais. Avant tout, c'est déjà la valorisation de la ville d'Arles. Donc, c'est ce qui génère beaucoup de touristes. On a beaucoup d'animations, on fait des animations... qui se font peu dans le midi. Je pense qu'on est un petit peu à la pointe quand on fait beaucoup de spectacles de rue. C'est quelque chose qui prend forme depuis quelques années. Nous faisons un drôle de Noël qui est un petit peu spécial depuis quelques années, puisque c'est un petit peu... C'est une opération qui dépasse un petit peu le cadre des Noël ordinaires. Hein. On n'a pas de village de Noël, mais on a des animations dans les rues, sur la place de la République, qui génèrent beaucoup de monde.
Arles est connu pour les rencontres internationales de la photographie. Est-ce que ces rencontres génèrent des revenus pour la ville?
Bien sûr, c'est très important. Les rencontres internationales de la photo génèrent beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers qui viennent des pays du monde entier. Ça a pris une dimension internationale importante. Les commerçants sont satisfaits, notamment de plus en plus. Cela fait faire le plein de tous les hôtels d'Arles, bien souvent. Les petits commerçants, les restaurateurs, tout le monde y retrouve son compte. C'est une opération culturelle très importante pour la ville d'Arles. Bien sûr, il y a aussi les férias.
Ouais.
Les férias.
Ça aussi,
c'est monumental. Nous avons une féria de Pâques qui est une féria monumentale, qui draine beaucoup, beaucoup de monde dans la ville d'Arles. Nous avons la feria du riz qui est un petit peu moindre, mais qui tout de même donne un bon coup de pouce aux commerçants et à toute l'économie arlésienne.
Vous disiez tout à l'heure que la ville d'Arles a attiré de plus en plus de nouveaux habitants. Est-ce que vous avez une idée de qui sont ces nouveaux habitants?
Vous savez, je donne un exemple. Les gens du Nord qui descendent et qui viennent passer quelque temps dans Arles, ils ont beaucoup de difficultés à remonter chez eux. Et quand ils ont la possibilité de venir s'installer sur Arles, pour quelque raison que ce soit, ils y viennent très volontiers.
Après Martial Roche, adjoint à l'économie et au commerce de la ville d'Arles, le point de vue sur la culture d'une nouvelle habitante, Valérie Delin. Elle est arrivée en février 2007 pour diriger le Théâtre d'Arles, une scène conventionnée pour les écritures contemporaines.
Mon regard, il est... Je trouve que c'est une ville assez étonnante, d'abord par la richesse de son patrimoine. Et c'est vrai qu'il y a quand même peu de villes de 50 000 habitants qui a un nombre aussi important d'acteurs culturels, il faut bien le dire. Je crois que je ne connais pas d'autres exemples en France. Donc, de ce point de vue, c'est très, très agréable et très enrichissant de travailler ici, vraiment. Il y a Actes Sud, Harmonia Mundi, des rencontres photos, enfin vous savez, un certain nombre de choses.
C'est ces éléments-là qui vous ont donné envie de venir ici ?
Oui, je dois dire que je connaissais la ville par les rencontres photos, parce que je m'y intéresse beaucoup aussi. Et c'est vrai qu'une ville de 50 000 habitants avec autant de choses, c'est assez attirant.
Donc, vous l'avez connu à l'occasion des rencontres de la photo. Donc, c'est une ville qui a une image comme ça, très associée justement à la dimension de l'image, à la dimension de la photo, tout ça. La place du spectacle vivant à l'intérieur de ce paysage-là, où, outre les rencontres photos, il y a quand même Harmonia Mundi et tout ça qui sont du côté de l'industrie culturelle. La place du spectacle vivant dans ce paysage-là, comment vous la voyez ?
Bah déjà, la place du... Je vais parler de la place du théâtre, hein, précisément. Le théâtre n'existe que depuis 6 ans. Donc, dans la ville, c'est un théâtre jeune, un théâtre de 6 ans. Donc, je pense qu'il doit... Mon prédécesseur lui a déjà donné une très jolie place dans la ville. Et sa place, il doit encore la prendre. Donc, voilà, je suis là aussi pour ça, pour développer le projet... et que le spectacle vivant prenne sa juste place dans la ville. Mais c'est vrai que 6 ans, c'est peu.
À l'occasion de l'ouverture de la grande halle sur les anciens ateliers SNCF, on a pu supposer que la culture pourrait être un moteur pour la ville d'Arles. Vous, quel est votre regard là-dessus ? Est-ce que vous pensez que la culture peut être un axe de développement pour une ville et pour cette ville-là en particulier ?
Bah, si la culture pouvait être un axe de développement pour une ville, ce serait bien. Hein. Je pense, j'en serais ravie. Je pense que c'est possible, oui. Vous savez, c'est une ville où il y a quand même pas mal de nouveaux arrivants et des gens qui ont des pratiques, quoi. Ça, c'est déjà un axe de développement. Après, effectivement, sur les ateliers, il peut y avoir de nouvelles entreprises liées à l'industrie culturelle, pourquoi pas ? Les choses, elles sont complémentaires. Si ça donne des emplois à cette ville, qui en manque aussi, hein, je pense que ça peut être intéressant. Ça dépend. Pour moi, j'ai un regard récent. J'arrive, je ne connais pas toute l'histoire, donc c'est difficile pour moi d'avoir un jugement.
Bernard Coutaz, lui, n'est pas un nouvel habitant. Il dirige Harmonia Mundi, entreprise d'édition phonographique qui est venue s'installer il y a 21 ans en Arles avec 30 salariés. Ils sont aujourd'hui 138, une entreprise qui annonce 60 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Son avis sur la Grande Halle est plutôt tranché.
D'abord, la rénovation de la Grande Halle, je trouve ça magnifique. Il y a eu une inauguration en feu d'artifice, qui était aussi très beau, enfin, et en fanfare, c'est très bien. Mais il me semble qu'on est là dans un cas de figure, hélas, général aujourd'hui en France, c'est que dans les activités, surtout culturelles d'ailleurs, on fait passer le contenant avant le contenu. Moi, je le déplore dans le cadre de notre activité éditoriale, et je réagis auprès des cadres de la société, en leur disant, mon Dieu, arrêtez de mettre en premier le contenant, c'est-à-dire la facture de la pochette, la promotion, le marketing, et vous oubliez de parler de la musique. Est-ce qu'elle est intéressante ? Et comment ça chante ? Comment ça joue ? C'est général, d'ailleurs. Le contenant passe avant le contenu. Et quand vous parlez de la Grande Halle, j'ai l'impression, mais je ne suis pas expert, que là aussi, on a fait le contenant, mais le contenu, je ne sais pas ce qu'on va mettre dedans.
Alors, ça fait 22 ans que vous êtes installé là. Vous, comment vous avez vu l'évolution du paysage culturel à Arles ?
Ben, très lent, très lent. Parce que, bon, Actes Sud connaît son développement, très intéressant. Nous nous sommes développés beaucoup depuis que nous sommes installés ici. En dehors de ça, je n'ai pas vu beaucoup de développement d'industrie culturelle, comme on dit aujourd'hui, ou d'activité culturelle majeure. Nous n'avons pas de grandes manifestations théâtrales, ni de grandes manifestations musicales, ni de grandes manifestations chorégraphiques. C'est pas ici que ça se passe.
Et les politiques culturelles alors de la ville se suivent et se ressemblent, ou il y a des gens qui ont essayé quand même de donner des impulsions un peu?
Il semblerait qu'aujourd'hui le maire en place, Hervé Schiavetti, se préoccupe de ce développement des activités culturelles et des industries culturelles. D'ailleurs, on a un groupement, un prix d'ES des industries culturelles sur Arles et le pays d'Arles, qui est agréé et un peu aidé par la mairie et la région. Et j'ai proposé de réaliser, dans ce cadre de développement, une maison des éditeurs pour offrir à des éditeurs qui ont bien des misères, que ce soit de disques ou de livres, de s'installer dans des conditions plus économiques et plus confortables à Arles, dans des locaux qui seraient spécialement aménagés pour eux, avec un ensemble de services communs mutualisés.
Sinon, dans la vie culturelle à Arles, quel est votre rôle, votre place ?
Nul. Non, d'abord, je suis responsable d'entreprise, donc un groupe de sociétés pas prendre la grosse tête, mais relativement important, qui m'occupe grandement. D'autre part, je ne suis ni chargé de mission, ni curé, et donc ça n'est pas mon rôle, me semble-t-il, de me préoccuper de développer la vie culturelle à Arles. Il y a pour ça des adjoints au maire chargés de la culture. Donc, et comme j'ai du travail jusque-là, même à mon âge, je laisse bien faire la mairie face à ses responsabilités.
L'adjointe au maire chargée de la culture s'appelle Catherine Antoniazia.
Ouais. Allô ?
Oui, Claire Antoniazia ?
Oui.
Bonjour, Marc Voiry de Radio Grenouille. Merci d'accepter notre invitation et de répondre à quelques questions. Est-ce que vous avez le cadre en tête ou vous voulez que je vous réexplique
Alors, vous allez me donner 2 secondes. Je vais enlever mon manteau.
Oui, ah pardon.
Et puis, parce que je viens juste d'arriver, mais c'est ma faute, je suis un peu en retard. Ne quittez pas. Voilà, je vous écoute.
Est-ce que vous voulez que je vous redonne le cadre en 3 lignes ? Donc, Radio Grenouille est associée à un journal mensuel qui s'appelle
Le Ravis.
Oui. Voilà. Une fois par an, ils font une opération qui s'appelle Le Ravis crèche dans une ville. L'année dernière, c'était à Aix-en-Provence. Cette année, c'est à Arles. Et ils ont une émission politique tous les mois sur Radio Grenouille. Et donc, sur ces opérations spéciales-là, ils nous demandent de les accompagner. C'est-à-dire qu'on produit des programmes spéciaux en même temps qu'eux produisent un dossier spécial dans leur journal. Et là, ils ont décidé d'aller à Arles. Nous, on est une radio plutôt qui travaillons plutôt sur la culture, la création artistique.
Oui, mais je connais.
Ah, la culture.
Je connais même très bien.
Bon. Et donc, nous, souvent, quand on investit une ville comme ça, on est sur des thématiques culturelles. Et là, par rapport à cette histoire d'atelier SNCF, de la grande halle, etc., on a eu envie de creuser la question de l'économie de la culture. Voilà.
Oui, d'accord.
Voilà. Et donc, pour commencer, ma première question, ça serait, est-ce que vous, en tant qu'adjointe à la culture, vous avez, dans votre travail à la culture, il y a une dimension de développement économique de la ville d'Arles qui est à en prendre en compte dans ce que vous menez en...
Je crois que si vous voulez, c'est un peu pourquoi vous m'interrogez aujourd'hui, non ?
Oui.
C'est-à-dire que, bon, dans le projet municipal et qui a été plusieurs fois présenté par le maire, cette dimension, elle est évidente et elle n'est pas évidente que pour cette municipalité. Elle a toujours été quand même depuis plusieurs décennies tout à fait présente dans le fait même que Arles a une configuration bien particulière qui la met d'emblée comme et qui la fait reconnaître comme une ville culturelle et patrimoniale, donc naturellement comme étant situé au carrefour de la culture, du développement culturel, des arts et de l'économie. Donc forcément, si vous voulez, on sait, nous, et depuis aussi plusieurs décennies, que la ville d'Arles ne se développera plus en termes industrieux comme elle a pu être avant, hein, et que de toute façon, elle a là des opportunités très, je dirais, très évidente à développer autour du patrimoine, naturellement, hein, puisque c'est quand même une ville extrêmement patrimoniale, et autour des grands événements culturels qui sont aussi des événements économiques, et je pense notamment aux rencontres de la photographie, d'ailleurs.
Comment ce souci du développement économique au sein de la culture influence la politique culturelle que vous menez ?
Je crois pas qu'elle influence directement. Elle est continuellement présente et elle se positionne en termes de, à la fois de reconnaissance de la place des industries culturelles sur une ville comme Arles. Tout simplement, je dirais que actuellement sur Arles, les plus gros, les premiers employeurs, enfin en dehors de, je dirais, des services que peuvent être la collectivité, la ville d'Arles et puis l'hôpital, ce sont quand même des industries culturelles, c'est-à-dire Actes Sud, Harmonia Mundi, les éditions Philippe Piquet, les rencontres de la photographie. Ce sont ceux-là qui produisent en fait de la richesse et qui produisent aussi des emplois en nombre assez important, renforcés par tout un tissu de mini et de micro-entreprises qui génèrent aussi de l'économie et aussi des emplois, à la mesure d'une ville quand même de 54 000 habitants avec 35 000 habitants agglomérés. Parce que je crois qu'il faut toujours aussi situer Arles comme dans la taille qu'elle a. Arles est une petite ville quand même, hein.
50
000. Grande par son, par son aura, mais petite quand même, enfin c'est une ville moyenne, je dirais. Hein. Mmh. On est quand même pas sur le. On ne joue pas dans la même cour que Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, etc. Hein.
Mmh. Est-ce que, donc pour continuer sur ce fil-là, est-ce que du coup les programmations culturelles ne sont pas très orientées, de plus en plus de festivals, de plus en plus d'événements et un souci d'attirer du tourisme et donc une mise en place en conséquence de contenus de programmation qui vont dans ce sens-là?
Écoutez, moi non, je pense que c'est vraiment le contraire de ce qui se passe. Alors, moi je pense que les rencontres de la photographie, qui sont quand même le gros festival de la ville d'Arles, n'a jamais été autant à la fois exigeant en termes de programmation, c'est-à-dire ne faisant aucune concession sur des contenus artistiques, tout en étant effectivement extrêmement, se développant d'une façon très très importante, hein, puisqu'en 2001 il y avait 9000 visiteurs et qu'aujourd'hui il y en a à peu près 50 000. Mais je pense que c'est plus dans des savoir-faire et puis dans des recherches de mécénat et de soutien financier privé. Donc ils ne sont pas extrêmement liés quand même à des politiques culturelles municipales, hein, puisque ce n'est quand même pas la ville qui programme les rencontres de la photographie. Hein, c'est quand même une association qui a ses responsabilités d'opérateur culturel à 100%. La ville, en tous les cas, n'est jamais intervenue à ce niveau-là. Donc si vous voulez, il n'y a pas eu renforcement des festivals. Les festivals ont été soutenus continuent à l'être à des auteurs qui effectivement peuvent un petit peu gêner les petits opérateurs culturels qui aimeraient porter aussi des projets. Mais si dit, en ce qui me concerne moi, je me suis vraiment attachée à développer des projets complémentaires et qui sont pérennes sur toute l'année. J'ai à la fois en tête la dimension tout à fait économique de ces grandes institutions culturelles qui génèrent effectivement du tourisme, sans doute, et c'est très très bien que 50 000 personnes découvrent les 60 expositions que présentent les rencontres de la photographie sur l'art contemporain, qui ne sont pas forcément des expositions directement accessibles. Ça génère évidemment des nuits d'hôtel, ça génère de la consommation, et ça c'est bien, ça fait vivre une ville, ça fait vivre des commerçants, ça fait aussi rencontrer des gens, et c'est pas mal non plus, mais la politique culturelle n'est pas du tout infléchie dans ce sens-là, parce que justement nous avons en tête que une politique culturelle ne s'inscrit pas seulement dans l'économie, elle s'inscrit naturellement dans le rapport qu'on essaye de faire établir entre les publics, notamment les publics locaux, avec la création et avec la culture vivante notamment, et puis bien sûr la culture patrimoniale.
Donc il y a une friche des anciens ateliers SNCF de 10 hectares que la ville commence à réinvestir. On en a entendu parler avec l'inauguration de cette grande halle qui fait 5000 mètres carrés au sol, Donc là, on est dans des échelles tout à fait considérables, avec, je crois, un écran sur le toit qui fait 2800 mètres carrés aussi. C'est un projet qui s'annonce sous les alliances de la culture et du commerce. Quelle va être la programmation de cette grande halle et qu'est-ce qui va être projeté sur cet écran de 2800 mètres carrés ?
Alors, vous savez quand même que c'est un projet régional, hein, voilà. Donc, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce projet a été porté par le conseil régional. C'est vrai que c'est un bâtiment absolument gigantesque. Hein. En ce qui concerne le projet de fonctionnement, moi, je ne peux pas vous en dire des choses tout à fait arrêtées, puisqu'on est dans une phase de travail autour de ce projet. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je ne vous en dirai rien, puisque ça serait, à mon avis, un peu maladroit, hein, de vous donner des pistes qui n'ont pas été encore validées par l'ensemble des opérateurs et des personnes concernées. Là, donc, vous n'en saurez rien de moi.
En tout cas, vous allez continuer à inciter des entreprises culturelles à venir s'installer sur votre territoire, j'imagine.
Oui, on a des lieux aussi qui sont possibles, notamment dans l'atelier des roues, des ateliers SNCF, parce que vous parlez de la partie la plus
médiatique, la grande halle.
Médiatique, ouais. Actuellement, ouais. La grande halle, mais il y a une partie où sont affectés quand même où il y a un très beau bâtiment est en train de se restaurer, qui est donc sera une sorte de pépinière d'entreprise. Et c'est vrai que c'est des lieux qui peuvent être tout à fait attractifs pour des entreprises culturelles, dont certaines d'ailleurs vont bientôt s'installer, qui trouvent que c'est un lieu qui peut être agréable et assez vivifiant pour se développer. Oui, on a envie de continuer, hein, ça c'est évident. Moi, je dirais que le fait qu'il y ait la jonction entre Supinfocom, l'UIP, tout ça autour du développement culturel et de disciplines culturelles, ça génère forcément une dynamique. Le fait aussi qu'on soit dans une ville qui quand même est reconnue culturellement, c'est aussi un plus pour des entreprises culturelles. C'est assez valorisant, je dirais. Outre le fait que c'est une ville quand même où il fait assez bon vivre quand même, ce qui est pas mal non plus pour développer sa créativité. Et voilà.
C'était Catherine Antoniasia, adjointe à la culture de la ville d'Arles, Philippe Pouliquen, élu directeur adjoint de la direction de l'aménagement du territoire de la ville d'Arles. C'est cette direction qui mène notamment le projet de reconversion du site des anciens ateliers SNCF, 10 hectares en bordure du centre-ville. Un travail d'aménagement dans lequel il déclare mêler étroitement urbanisme, économie et culture. Donc Philippe Pouliquen, vous faites partie d'une des trois directions générales de la ville d'Arles, qui a une spécificité, elle combine à la fois l'urbain, l'économique et le culturel. Comment ça s'est fait ?
Je pense que c'est lié à la spécificité de cette ville. Donc Arles, c'est la plus grande commune de France avec un patrimoine exceptionnel. Et donc moi qui suis économiste, urbaniste de formation, effectivement quand on travaille dans un territoire pareil aussi complexe et riche, on ne doit pas du tout avoir le même regard, la même pratique professionnelle qu'on peut avoir peut-être dans un autre territoire. Donc, ce qui fait qu'effectivement moi ce qui m'a intéressé dans cette ville, c'était de pouvoir essayer de concilier patrimoine et modernité, essayer de bâtir des projets articulant l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, culturels, pour essayer de créer de l'innovation autour de ça. Donc ça se traduit pas par des dossiers qu'on a essayé de monter autour des pôles de compétitivité, autour des ateliers SNCF. On articule à chaque fois la dimension économique à la dimension culturelle. Parce qu'effectivement, la culture, ce n'est pas que de l'événement, mais c'est fondamentalement une capacité à... Déjà à faire du lien social avec la population, donc ça c'est un point très fort. Par exemple au niveau de la ville d'Arles, on a un très gros travail éducatif avec toutes les écoles, etc. Et puis c'est un formidable moteur économique aussi sur un territoire où on peut travailler en profondeur sur du développement en intégrant le savoir-faire historique de cette ville. Donc le savoir-faire historique de cette ville, c'était une ville autour de l'image avec bien sûr le Van Gogh, la lumière, etc. Et on voit qu'autour de ça, finalement, la tradition s'est perpétuée, s'est ouverte avec des grands créateurs qui sont venus dans cette ville. Bon, là, on travaille par exemple sur une exposition Christian Lacroix qui va se faire l'année prochaine parce que c'était un lieu d'inspiration formidable pour Christian Lacroix, ce lieu. Il en parle toujours dans ses collections. Hein, donc cette ville autour de l'image, de l'art, elle évolue. On est passé, ça nous a aidé à développer une stratégie de développement universitaire. Ça nous aide à développer une nouvelle stratégie d'accueil d'entreprises en trouvant des lieux pour accueillir ces entreprises. Alors justement, face à notre pôle universitaire, on a réhabilité une ancienne friche, l'atelier des roues, pour accueillir des entreprises. Voilà, donc cette dimension patrimoniale, alors je rattache à ça bien sûr toute la dimension patrimoniale et le patrimoine naturel, où on percevait ce territoire comme un territoire, je dirais, de, entre guillemets, nidification de flamants roses, mais c'est bien plus que ça, c'est un potentiel énorme aussi pour faire des projets vraiment basés sur l'éthique, basés sur le développement durable, en travaillant sur des exemples de gestion concertée exemplaire. Donc là, il y a des formidables enjeux. Même le dossier autoroutier qui aurait pu être analysé, je dirais, sous un angle, une infrastructure qui passe dans une ville. Donc on va faire du développement autour de l'infrastructure. Nous, on est parti d'une démarche inverse. On est parti en disant, on a un projet de territoire. Comment on va essayer de faire que l'infrastructure s'intègre à notre territoire, aux usages de ce territoire, pour que ce dossier aboutisse. Et c'est ce qui fait bon an mal an qu'il a pu avancer et en phase de déclaration d'utilité publique. Voilà, donc effectivement, la démarche culturelle, c'est une économique, et ce croisement est essentiel pour justement vendre une image exceptionnelle, mais en se basant sur une histoire de ce territoire, une capacité à faire ce lien entre l'histoire et l'innovation. Et on essaie de bâtir des projets autour de ça. Alors ça peut être des petits projets, hein. C'est pas forcément des grands chantiers, mais même dans un quartier ou dans une petite opération immobilière, on va essayer, par exemple quand vous faites une opération de mixité urbaine, eh ben, on va essayer toujours de se raccrocher à l'histoire du lieu. On va travailler avec le comité de quartier pour dire, tiens, mais au fait, à cet endroit-là, il y avait la place de la source qui a été abandonnée. Bon, on essaie modestement de faire des projets qui partent du territoire et non pas de venir plaquer des objets ou des voilà.
Mais pour revenir sur ce lien la culture avec l'économie, est-ce que le secteur culturel va devenir le poumon économique de la ville d'Arles?
Sur Arles, on a la chance d'être un territoire qui n'est pas monothéiste, donc on est un territoire avec divers atouts. Donc je pense qu'une ville moyenne ne peut pas se permettre de spécialiser en disant on va travailler tout sur le culturel et abandonner. Donc on est plutôt dans un territoire multiforme. On a une tradition ouvrière avec un tissu industriel très encore présent autour des métiers de la chaudronnerie, ce qui en fait qu'on a même certains savoir-faire là dans ce domaine-là qu'on veut conforter. On a un territoire avec sa terre agricole, la Camargue, un espace où il y a un potentiel en qualité agricole, puisqu'on a beaucoup de labels de production agricole autour du foin de Croc, autour de l'élevage taurin, etc., qui fait que c'est une spécificité. Il faut maintenir aussi cet espace agricole dans sa qualité et des nouvelles productions qu'on peut développer autour de ça. C'est un territoire touristique parce que... Alors, on a quand même 2500 emplois, 3000 dans le tourisme. C'est le premier quand même pôle d'hébergement touristique des Bouches-du-Rhône. Donc, il faut conforter aussi des stratégies touristiques avec des ciblages de clientèle internationale, des clientèles de séjour, etc. Mais c'est vrai que la dimension culturelle, c'est un peu le fil conducteur. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce qui différencie un territoire, c'est pas seulement la zone d'activité avec des belles parcelles et la vidéosurveillance, mais c'est peut-être de proposer aussi à ces entreprises des lieux extraordinaires où elles peuvent investir, des lieux d'inspiration pour des créateurs, et ce lien avec ces créateurs, il peut se faire à un moment donné avec un labo de recherche sur différents domaines. Donc c'est ce qui fait, je veux dire, cette émulation. Aujourd'hui, bon, on a un laboratoire comme le LERM, laboratoire sur les matériaux, qui est spécialisé sur ARC, qui est venu il y a une dizaine d'années. Bon, aujourd'hui, ils sont 50 chercheurs. Ils ont développé, alors j'étais spécialisé dans les bétons. Maintenant, ils ont créé du béton artistique, par exemple. Donc, ils sont spécialistes, donc, parce qu'ils ont travaillé avec un certain nombre d'acteurs arlésiens, etc. Ils sont leaders, maintenant, entreprise leader du pôle de compétitivité qu'on essaie de monter sur les industries culturelles. Bon, on a toute la branche édition autour de Harmonia Mundi, du livre aussi, qui se maintient, qui affirme une certaine volonté de développer aussi des projets autour de l'édition. On travaille actuellement sur une maison des éditeurs. Voilà. Donc on essaie de pas mettre, je dirais, de pas être tourné sur une seule logique, mais de mettre plutôt différentes logiques ensemble, et puis effectivement de garder un fil rouge avec cette dimension culturelle, mais sous l'angle positif et pas sous l'angle uniquement festif ou événementiel, quoi.
Mettre différentes logiques ensemble autour d'un fil rouge culturel, telle pourrait être la description également du projet de pôle de compétitivité, industrie culturelle et patrimoine, un projet porté par le LERM, laboratoire d'études et de recherche sur les matériaux, et par la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, dont Philippe Hourdebourg est directeur du développement industriel et international.
Nous, on s'est aperçu dans la démarche qu'on avait mise en place, en partant d'Arles et en s'étendant sur au moins toute la région PACA, qu'il y a énormément d'activités en région PACA qui travaillent sur le patrimoine et sur la culture, qui sont souvent des activités qui sont majeures en France, mais qui sont individuelles. C'est un peu comme un champ de blé avec des épis de blé qui poussent tout seuls, mais qui n'ont pas forcément de cohérence entre eux. Et puis, nous, notre démarche, on ne l'avait pas imaginé comme ça, mais en travaillant, on s'est aperçu que si on regroupe ces épis de blé, eh bien, on va faire une vraie gerbe qui est parfaitement cohérente. Et la gerbe que l'on a réussi à mettre en place est la suivante. À partir des activités présentes en région, on s'est aperçu qu'on avait des experts, des notoriétés dans tout ce qui a trait à la préservation, à la valorisation, à la transmission des patrimoines et de la culture. Et on s'est rendu compte que le pôle, c'est ni plus ni moins que la formalisation d'un ensemble d'acteurs qui peuvent intervenir pour aider des territoires, une région, une ville, petite, grande, à mettre en valeur son patrimoine et ses cultures. Vous savez que la grande problématique des territoires, là je prends un langage technocratique, excusez-moi, mais la grande problématique des territoires, c'est d'arriver à se singulariser, à se valoriser pour attirer des nouveaux habitants, pour attirer des entreprises, ou, ce qui est plus facile à comprendre, pour attirer des touristes. Qu'est-ce qu'on fait pour attirer des touristes? On met en valeur les plages, on met en valeur les paysages, on met en valeur les monuments historiques. Et nous, eh bien, dans ce pôle, on s'est aperçu qu'en région PACA, on avait tous les professionnels qui permettent de mettre en valeur les plages, les monuments historiques, etc. Et qui permettent également de les mettre en valeur par le biais de l'informatique, par le biais d'images de synthèse, par le biais de création de livres, de DVD, et même par le biais de diffusion sur des supports très modernes, que sont les PDA, les téléphones portables, etc., pour concevoir des outils permettant aux visiteurs étrangers, notamment, d'avoir un audio-guidage, un visio-guidage dans les monuments. Donc, vous voyez, le numérique intervient en bout de chaîne pour la valorisation des monuments ou des paysages. Et on a l'originalité dans ce pôle de regrouper aussi bien des chercheurs qui vont faire des travaux sur des mosaïques, qui vont faire des travaux sur des problématiques de paysages naturels, que des entreprises qui vont ensuite travailler pour faire de la recherche sur des nouveaux matériaux ou sur des nouveaux systèmes informatiques qui vont permettre de mettre en valeur ces paysages naturels, que des entreprises qui vont permettre de restaurer ces monuments ou ces paysages naturels, ou qui vont faire des ouvrages d'art dans les paysages naturels, mais en intégrant la dimension paysagère et en arrivant à simuler ce qui va se passer plus tard et l'impact de l'ouvrage d'art sur le paysage naturel, jusqu'aux entreprises qui vont ensuite diffuser ce qui a été réalisé pour mettre en valeur et pour attirer des populations. Et cette diffusion, évidemment, aujourd'hui, elle est pas uniquement, hein, parce que le livre et le disque, c'est tout à fait essentiel, mais elle est beaucoup numérique.
C'était Philippe Hurdebourg de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles. Pour conclure cette émission autour de la dimension de développement économique portée par la culture à Arles, on retrouve Françoise Nissen, directrice des éditions Actes Sud, qui nous donne son point de vue sur l'inscription de la Grande Halle dans le paysage culturel arlésien.
Récemment, on a beaucoup parlé de la Grande Halle qui s'ouvrait sur le site des anciens ateliers SNCF à Arles. Je crois qu'à Actes Sud, vous avez déjà indiqué que l'endroit vous intéressait. Alors, quel est votre regard sur cet endroit? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Pourquoi il y avait besoin d'une Grande Halle à Arles?
Donc, il y a beaucoup de questions là. Il fait que cet emplacement, cette emprise, représente un tiers du territoire de la ville. C'est évident qu'il faut là un projet d'ampleur pour la ville, pour redonner un souffle. Et il est évident que le meilleur projet possible soit à avoir avec la culture, parce que si vous en faites un morcellement, vous tombez à l'eau. Si vous essayez de donner un petit bout à chacun, ça marche pas, quoi. Ça va devenir... Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de souffle. Donc l'idée, c'était, et je crois que les opérateurs du projet sont bien conscients de ça, qu'il faut donner à ce lieu, alors ça pouvait être un lieu purement universitaire, et donc il y a une partie de formation, et ça c'est formidable, hein, je veux dire, il y a Supinfocom, il y a l'école de photo qui devrait y aller, bon, bien sûr il y a une partie aussi qui devrait être dédiée aux rencontres photo, puisque c'est eux qui, les premiers, ont commencé à réfléchir, à aménager ces choses-là. Il y a des partenaires très importants qui regardent ça pour travailler sur l'art contemporain. Et puis nous, c'est évident que nous sommes objectivement à l'étroit ici. On avait espéré à un moment donné pouvoir s'agrandir parce qu'il y avait la Banque de France qui a été désaffectée. Mais bon, on n'y a pas eu accès. Et là, objectivement, la mairie s'est un peu trompée. Elle a loué à une entreprise qui a très vite fait faillite. Mais enfin bon, c'est comme ça. Hein. Donc nous, on était à l'étroit dans notre... Dans nos locaux, donc c'est important pour les gens qui y travaillent de réfléchir un peu, à avoir un peu plus d'espace. Donc ça nous intéresse d'y réfléchir. Donc on réfléchit et on est dans cette hypothèse-là, et ça nous plairait bien. La Grande Halle, elle est là, elle existe, donc c'est tout à fait évident, légitime, normal qu'on y réfléchit comme un lieu en tant que tel, qui peut accueillir des grandes scènes musicales, qui peut accueillir des grandes expositions, des grandes manifestations, quoi, voilà.
Il y avait besoin de ça à Arles.
Comment vous dire, est-ce que on est dans une activité qui est du besoin primaire pratiquement? Je crois qu'on ne vit pas sans musique, on ne vit pas sans lecture, on ne vit pas sans images, etc. Après, les choses signifient, un peu au hasard, des gens qui les animent, des opportunités. Je pense que très rapidement, on ne pourra plus s'en passer. Et que ça va être un moteur formidable. Ce qu'on a vu ces 30 dernières années, c'est que la culture sur la ville d'Arles, j'entends, est un moteur formidable. Donc, continuons dans cette idée-là. Donnons à Arles l'image d'une capitale européenne et aussi ramenons des jeunes. Donc, la formation, la culture, tout ça va faire vivre la ville. Des entreprises voudront s'installer et hop, on redémarre quelque chose. Ne soyons pas une cité dortoir. Ne soyons pas une cité commerciale. Imaginez qu'une mairie un peu dingue et un peu... sans réflexion et voulu en faire un centre commercial ou un truc comme ça. Mon Dieu, quel désastre! Quel désastre! Là, il y a une opportunité formidable d'en faire un lieu qui sera à la fois un lieu de vie formidable pour les Arlésiens, dans ce lieu de mémoire qui est ô combien important de le faire revivre, compte tenu de ce que ça représentait et de l'espace que ça représente, et en même temps, ça va être un pôle d'attraction inouï. Et je suis sûre que la ville peut se redévelopper à partir de là.
C'est avec Françoise Nissen, directrice des éditions Actes Sud, que se termine cette seconde émission autour d'Arles ce week-end sur la grenouille. Une émission dans laquelle vous avez pu entendre également Martial Roche, adjoint à l'économie et au commerce, Valérie Delain, directrice du théâtre de la ville, Bernard Coutaz, directeur d'Harmonia Mundi, Catherine Antoniasia, adjointe à la culture de la ville d'Arles, Philippe Pouliken, directeur adjoint de l'aménagement du territoire, et Philippe Hurdebourg, directeur du développement industriel et international de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles. La culture à Arles, vue à travers l'économie, ça continue demain sur la grenouille. Même heure, même onde, vous pourrez y entendre entre autres les responsables des rencontres internationales de la photographie d'Arles, du festival Les Suds en Arles, ainsi que le président de l'office de tourisme de la ville. Enfin, je vous rappelle que ces émissions sont réalisées dans le cadre d'un partenariat avec le RAVI, mensuel régional satirique. Le numéro de novembre est muni d'un dossier spécial Arles, le RAVI crèche à Arles.